Avoir raison avec Noam Chomsky. Deuxième épisode, le père de la linguistique générative.
L'enfant commence par savoir non pas qu'il entend de l'anglais, du néerlandais, du français ou autre, mais il commence par savoir qu'il entend un langage humain d'un type très étroit et explicite qui ne permet que peu de variations. Et c'est parce qu'il part de ce schématisme très organisé et très restrictif qu'il est capable de faire le grand saut entre des données éparses, décorrélées et des connaissances très organisées.
Tout part d'un émerveillement, un tout petit enfant qui n'en est qu'à quelques mois de sa vie sur Terre et de sa découverte du monde. Comment peut-il comprendre aussi vite la langue humaine ? Et nous, adultes, comment pouvons-nous acquérir des systèmes de connaissances aussi étendus quand notre expérience, elle, est à la fois limitée et fragmentaire ? Il y a quelque chose de magique à ce que deux humains qui se parlent se comprennent l'un l'autre. Noam Chomsky n'emploie jamais le mot d'innéisme, de structure de langage inné, mais c'est bien ce que l'on comprend en le lisant. Chomsky, dont le père lui-même était linguiste, crée un département de linguistique au MIT dans les années 50. Son premier livre sur le sujet paraît en 1957, Syntactic Structures. En France, c'est l'université Paris 8 Vincennes qui enseignera les principes de sa grammaire dite générative. Et si Noam Chomsky s'est toujours défendu de faire un lien entre son travail sur le langage et ses prises de position politiques, beaucoup chercheront à déceler dans ses théories scientifiques une explication de sa vision du monde. Bonjour Pierre Jacob.
Bonjour Julie Gacon.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe du langage et des sciences cognitives, directeur de recherche émérite au CNRS et ancien directeur de l'Institut Jean Nicot. Vous êtes en liaison avec nous depuis Avignon grâce à France Bleu Vaucluse, que je remercie. Alors Pierre Jacob, pour comprendre ce que Noam Chomsky a apporté à la linguistique et à notre compréhension du langage, il faut rappeler dans quel contexte il élabore. On est dans les années 50 aux États-Unis et l'idée qui domine alors, c'est ce qu'on appelle le comportementalisme, le behaviorisme, c'est-à-dire le langage, c'est quelque chose de social qu'on apprend avec les autres.
Absolument. Vous avez tout à fait raison. Les théories qui sont dominantes à l'époque où Chomsky se met à défricher les premières idées scientifiques de la linguistique générative, qui vont donner lieu à l'idée même d'une grammaire générative, nous allons expliquer ce que ça veut dire, sont dominées par le structuralisme dans l'étude linguistique, et la linguistique qui est une science humaine, une science sociale, comme vous l'avez dit, et en psychologie par le behaviorisme, dont le principe fondamental est d'essayer de rendre la psychologie scientifique, les explications du comportement humain scientifique, en réduisant le comportement à une réponse à des stimuli sensoriels.
De notre environnement, donc.
De notre environnement,
voilà. Exactement. Et Chomsky s'oppose à cette idée.
Absolument. Il s'oppose, il critique en 1959, il a rédigé juste deux années après la parution de Syntactic Structures, qui était son livre de 57, qui est lui-même un extrait d'un énorme ouvrage qu'il a rédigé dans les années 50, qui s'appelle The Logical Structure of Linguistic Theory, qui ne sera publié en anglais qu'en 1975, qui est un travail absolument monumental, dont Syntactic Structures est un extrait. Et en 59, donc, il publie une critique absolument virulente d'un livre du psychologue behavioriste B.F. Skinner, paru en 1957, l'année même de Syntactic Structures, qui s'appelait Verbal Behavior, et qui essayait de fournir du comportement, de l'usage de la parole, une explication behavioriste que critique sévèrement Chomsky dans sa revue de 1959.
Alors, il la critique en quels termes ? En fait, il ramène l'intelligence humaine, la créativité humaine dans l'histoire.
Alors, il a, au fond, si vous voulez, posé sur les langues humaines et le langage humain, des questions, comme vous l'avez dit assez bien tout à l'heure, qui n'avaient jamais été envisagées auparavant tant l'usage de la parole nous semble à nous les humains, et c'est un problème pour les sciences humaines en général, tant le langage et l'usage de la parole nous semblent familière. Et donc, cette familiarité avec notre capacité d'utiliser les mots, de nous exprimer, fait obstacle, en fait, à la reconnaissance de questions très simples qui sont fondamentales et que nous avons du mal à considérer qu'elles réclament une explication. Et je vais vous donner, je pense que le plus simple, c'est de vous donner tout de suite un exemple. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est qu'une langue humaine ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne sais pas, il faudrait demander à un linguiste. Je crois qu'aujourd'hui, on considère qu'environ il y a 5 à 7 000 langues parlées à la surface de la Terre par des êtres humains. On verra tout à l'heure qu'il semble que les caractéristiques fondamentales des langues humaines, ces caractéristiques générales des langues humaines, sont propres à l'espèce humaine. Elles ne sont pas partagées par les primates non humains, par exemple, qui sont nos cousins génétiques les plus proches, qui sont, du point de vue de la descendance évolutive, les ancêtres. Nous avons un ancêtre commun de 6 millions d'années environ avec les grands singes, les chimpanzés. Or, ces caractéristiques fondamentales des langues humaines semblent propres à l'exercice du langage humain. Alors, Chomsky pose la question de savoir qu'est-ce qu'une langue, et la réponse qu'il donne, très simple, c'est qu'une langue est un ensemble de phrases. Et donc se pose la question, qu'est-ce que c'est qu'une phrase dans n'importe quelle langue ? Et la réponse qu'il donne à cette question, la réponse initiale à cette question, si simple qu'elle n'avait pas été véritablement abordée de manière directe dans la linguistique précédemment, c'est qu'une phrase, c'est une séquence ordonnée de mots appartenant à un vocabulaire, appartenant à un lexique.
Et ça, vous voulez dire que dans toute l'histoire de l'humanité, personne avant Chomsky ne l'avait dit aussi, enfin, précisément, disons, parce que ça paraît être une lapalissade.
Non, oui. En tout cas, disons, c'est une lapalissade, c'est tout à fait vrai. Mais à partir du moment où on définit une langue comme un ensemble de phrases et une phrase comme une séquence ordonnée de mots, il est très facile de voir que une phrase composée de mots est une séquence qui obéit à une certaine structure grammaticale. Si vous prenez les mots et que vous les mettez dans le désordre et que vous ne suivez pas l'ordre grammatical, vous n'avez pas une phrase. Donc ce cas, l'étape numéro 2, qui est propre véritablement au travail scientifique de Chomsky, c'est de reconnaître l'observation suivante et d'essayer de résoudre l'énigme que cette observation fait surgir. L'observation est la suivante. Les mots d'une langue sont un ensemble fini qui figure dans un dictionnaire. Donc vous pouvez prendre le Larousse, vous pouvez prendre le Robert, et vous avez, je ne sais pas, 60, 80 000 mots. C'est un grand nombre d'entités. Ces mots sont des entités qui sont discrètes, mais on peut en faire la liste. Et si on peut faire la liste des mots, c'est que les mots de la langue sont un ensemble fini. D'accord ? Et ce que Chomsky observe, c'est qu'avec une liste finie de mots qui appartiennent au vocabulaire, eh bien, n'importe quel être humain qui sait parler la langue est capable de fabriquer un ensemble non fini de phrases. Alors pourquoi, comment justifier cette affirmation que l'ensemble des phrases d'une langue n'est pas fini alors que l'ensemble des mots d'une langue est fini puisqu'on peut en faire la liste dans un dictionnaire ? Ben, disons, pour montrer que la taille de l'ensemble des phrases d'une langue n'est pas finie, Chomsky raisonne à peu près de la manière suivante. Prenons un exemple qui d'ailleurs illustre beaucoup d'autres questions qui ont intéressé Chomsky au début de sa carrière, qui est un exemple tiré de Syntactic Structures 1957. Mm-hmm. Prenez la phrase qui a été utilisée par Chomsky, les idées vertes, disons la version française, la traduction française d'un exemple donné en anglais par Chomsky, les idées vertes incolores dorment furieusement. Le choix de cet exemple par Chomsky était destiné par Chomsky à justifier la thèse selon laquelle la grammaticalité, la propriété d'une suite de mots d'être grammaticale, doit être distinguée du sens de la phrase, puisque cette phrase a un sens très bizarre, très mystérieux. On peut probablement lui donner un sens poétique, mais enfin, le sens de la phrase n'est pas immédiat. Je répète la phrase, les idées vertes incolorent d'hommes furieusement. Il y a des contradictions, des anomalies sémantiques, etc. Les idées, ça ne dort pas. Une idée ne peut pas être colorée ou incolore. Si elle est incolore, elle ne peut pas être verte, etc. Mais on a l'intuition, et c'est ça qui est très important, que cette suite de mots peut former à la propriété d'être grammaticale.
Mais est-ce que ça veut dire que Chomsky ne s'intéresse pas à la poésie ? Parce que la poésie, ce n'est pas une question de sens, c'est de comment on la reçoit. Alors, c'est aussi une question de récepteur.
Disons qu'il y a plusieurs façons de s'intéresser à la poésie. Si vous soyez Chomsky ou Julie Gacon ou un poète, vous pouvez consommer la poésie, vous pouvez lire la poésie, la réciter, etc. Donc je ne me prononce pas sur le goût ou pas, je ne le connais pas, le goût de Chomsky pour la poésie. La question, c'est que les armes qu'il essaye d'élaborer ne sont pas directement applicables à la question de savoir qu'est-ce qui fait d'un ensemble de phrases qu'elles sont poétiques ou non poétiques. D'accord ? C'est pas une question, c'est une question prématurée pour la démarche scientifique de Chomsky. En revanche, si vous permettez de revenir à la question que je voulais traiter, qui est le caractère non fini, l'infinité de l'ensemble des phrases d'une langue, à partir de cette phrase, les idées vertes incolores dorment furieusement, vous pouvez former la phrase plus compliquée française. Chomsky a dit que les idées vertes incolores dorment furieusement. C'est aussi une phrase française. Donc vous enchâssez les idées vertes incolores dorment furieusement à l'intérieur d'un contexte. Chomsky a dit que. Puis vous pouvez former une phrase encore plus compliquée. Vous pouvez dire Julie croit que Chomsky a dit que les idées vertes incolores dorment furieusement. Et vous pouvez donc, à gauche de la phrase initiale, les idées vertes incolores dorment furieusement, vous pouvez construire des structures qui sont indéfiniment plus complexes. Vous pouvez dire, Pierre se demande si Julie croit que Chomsky a dit, etc. etc.
Il n'y
a pas de limite. Le point de Chomsky, ce que j'aimerais faire comprendre, c'est que l'argument de ce que affirme Chomsky, qui est contestable, les gens peuvent le contester, c'est qu'il n'y a pas de limite sur le plan de la grammaticalité, sur le plan de la syntaxe, au nombre, à la complexité d'enchâssement que vous pouvez effectuer. Est-ce que vous comprenez est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire il y a des limites autres. La vie humaine est finie, un être humain va mourir avant d'avoir pu prononcer, articuler ou entendre une phrase infinie. Mais il n'y a pas de limite grammaticale.
Alors,
c'est une observation qui n'avait jamais été faite, à mon avis, avant que lui la fasse.
Donc une observation, c'est de la définition presque du langage. C'est une le behaviorisme, c'était aussi une définition. Et Chomsky arrive en disant il faut théoriser. Et ce qu'il dit notamment, en tout cas c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans l'introduction, vous me direz si j'ai fait... D'accord, alors donc ça veut dire que Chomsky dit vraiment que si nous sommes capables de connaître tant de choses aujourd'hui, c'est parce que dans un sens nous les connaissons déjà ces choses, même si les données envoyées par nos sens ont été nécessaires pour faire émerger cette connaissance. En fait, Pierre Jacob, c'est presque du Platon dans le texte. Ça veut dire qu'on n'acquiert pas de nouvelles connaissances, mais on redécouvre des connaissances déjà établies, à ceci près que Chomsky ne fait pas reposer ça sur l'existence d'une vie antérieure.
Non. Alors, attendez. On pourrait distinguer deux problèmes, et c'est ce que fait Chomsky. C'est très important sur le plan de la méthode de distinguer la question de savoir qu'est-ce que c'est, que c'est, que connaît un adulte, un locuteur, vous ou moi, qui sommes capables de prononcer ou d'entendre, ou de comprendre, d'interpréter une phrase de notre langue, sachant que si on accepte l'argument de Chomsky, nous pourrions comprendre un nombre non fini de ces phrases. Et l'autre problème est de savoir comment le bébé humain fait pour acquérir cette connaissance. Alors si vous permettez, avant de parler du problème que pose l'acquisition, le mystère du fait que le bébé lui-même est capable en quelques années, en trois ans, d'acquérir les instruments, la connaissance de la grammaire de sa langue. Donc, une question scientifique majeure, c'est une question scientifique majeure, mais l'autre question scientifique majeure, c'est comment peut-on comprendre qu'un mécanisme fini dans le cerveau d'un adulte, d'accord ? Parce que le cerveau est fini et la mémoire est finie. Comment est-ce qu'un mécanisme dans le cerveau d'un locuteur adulte est capable d'engendrer potentiellement un ensemble infini de phrases grammaticales de la langue à partir d'un stock fini de mots appartenant au vocabulaire ?
On a compris, oui.
Oui, et donc là, disons, ce qui est particulier dans le travail qu'a fait Chomsky, c'est qu'il avait connaissance des travaux de la logique mathématique, des mathématiciens, en particulier les logiciens des années 30-40 dont les grands noms sont ceux de Gödel, de, en particulier Alan Turing, Alan de Post, Turing. De Church, etc. Des logiciens qui se sont intéressés, qui ont joué un rôle fondamental dans la naissance de l'informatique théorique et de l'intelligence artificielle. Mais ce qu'a compris Chomsky, c'est qu'il y a dans ces travaux logiques un concept qui est le concept de récursivité et qui peut, de manière abstraite, permettre de traiter le problème de comment un mécanisme fini dans le cerveau d'un locuteur, d'un adulte, peut engendrer un ensemble potentiellement infini de phrases à partir d'un stock fini de mots appartenant au lexique.
Mais... D'ailleurs, pardon, Pierre Jacob, sur la question oui. des mathématiciens, parce que, dites-moi d'accord. si je me trompe, il me semble que, Noam Chomsky partageait même certains bureaux avec des mathématiciens, avec des logiciens. Absolument. On est dans les années 50, dans les prémices de l'informatique, de la cybernétique, et Chomsky était un grand admirateur d'un philosophe aussi mathématicien qui s'appelle Bertrand Russell. Donc, quel est le lien entre les mathématiques, entre les sciences du langage et la philosophie?
Alors, le lien est étroit, mais disons que Russell est un penseur très important qui a bouleversé la logique, disons, au tournant du XXe siècle, dans les années 1910. Il a créé son ouvrage majeur, Principia Mathematica, mais c'est la génération des logiciens qui est subséquente. C'est les gens que je mentionnais plutôt comme Gödel, Turing, Church, Post, dont les travaux desquels Chomsky avait connaissance, qui sont directement responsables, qui ont été directement utilisés par Chomsky. Et cette notion de récursivité est très simple à expliquer. Et c'est en utilisant, en empruntant cette notion de récursivité pour caractériser les règles syntaxiques que Chomsky peut aborder, résoudre ou offrir une façon de résoudre le problème fondamental de la possibilité de créer une infinité de phrases à partir d'un nombre, d'un ensemble fini de mots. Une règle est dite récursive par les logiciens si et seulement si elle peut se réappliquer indéfiniment à ses propres applications. D'accord ? Donc, je vais vous donner un exemple très simple qui vient de l'univers de l'arithmétique. Si vous prenez en arithmétique la fonction « être le successeur de », ok ? Vous pouvez engendrer l'ensemble non fini des entiers naturels à partir de zéro par cette application. Le successeur de zéro, c'est 1, c'est-à-dire 0 plus 1. Le successeur de 1, c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc, pour tout nombre n, le successeur de n est n plus 1. Le successeur de n plus 1 est n plus 1 plus 1, etc., etc. Donc, ça, c'est une règle récursive parce que vous pouvez réappliquer cette règle a son propre résultat sans aucune limite. Et dans l'analyse syntaxique, les linguistes, comme vous le savez sans doute, ils décomposent les propriétés grammaticales des phrases en utilisant des arbres, des structures arborescentes. Et les arbres syntaxiques, il faut se les représenter mentalement. Si vous ouvrez un ouvrage de linguistique, vous le verrez tout de suite. Ce sont des arbres dont les racines sont en haut et les branchements sont vers le bas. D'accord ? Et donc... ce que Chomsky a démontré, c'est que si vous prenez par exemple une règle syntaxique qui permet de réécrire une phrase en un groupe nominal « le chat » suivi d'un groupe verbal « boisson-lait », d'accord ? Eh bien, vous pouvez dans certains cas réécrire le groupe verbal en, par exemple, avec le verbe « croire » et suivi de la proposition enchâssée que quelque chose. Et à partir de... Si vous réécrivez le syntagme, le groupe verbal, comme verbe suivi d'une phrase, comme « Julie croit que Chomsky est un génie », vous pouvez réanalyser la phrase enchâssée « Chomsky est un génie » en utilisant la première règle qui décompose la phrase Chomsky est un génie, en un groupe nominal, un groupe verbal, et ouais. indéfiniment.
Jacob croit que Julie croit que, alors on va dire plutôt, c'est plutôt ça. Mais Pierre Jacob, parce que c'est vrai que c'est la linguistique, je comprends mieux pourquoi la linguistique est si compliquée à comprendre pour des esprits non scientifiques. Vous venez d'en faire la démonstration, tout ça est très mathématique, et d'ailleurs on disait que la théorie de Chomsky pouvait se décomposer, parce qu'elle était justement très mathématique, mais voilà, quand Noam Chomsky fait ses conférences sur la linguistique, des milliers milliers de personnes sont toujours là à l'écouter, à être pendues à ses lèvres. Pour autant, blague à part, Noam Chomsky s'intéresse-t-il davantage, comme on le dit, à celui qui produit un discours, à l'émetteur, qu'à celui qui le reçoit, le récepteur? Et si je vous pose cette question, c'est pour faire aussi le lien avec son œuvre de la fabrication du consentement, où il part du principe que les récepteurs n'ont pas de créativité, cette même créativité qu'ils nous donnent pour le langage.
Oui. Alors, je dirais que ces idées, il ne fait aucune asymétrie entre l'importance de la production des mots, la production des phrases et la réception. En fait, en psycholinguistique, dans les travaux de psychologie linguistique, de psychologie du langage qui se sont développés à partir de Chomsky, on a beaucoup plus étudié la perception de la parole que la production de la parole. Cela dit, les travaux formels de Chomsky sur l'organisation hiérarchique arborescente des grammaires des langues humaines a peu de rapport avec ses travaux sur la manufacture du consentement et sur les procédés grâce auxquels l'idéologie dominante s'impose à la population. Il s'intéresse à la question de la fabrication du consentement, mais on ne peut pas dire que ses travaux sur la fabrication du consentement soient un reflet direct de ses conceptions sur l'organisation hiérarchique abstraite de la grammaire des langues.
Et plus généralement, parce qu'on a beaucoup fait dire à Chomsky ce qu'il ne voulait pas dire, à savoir qu'il y avait un lien entre sa théorie du langage et sa vision du monde. Et certains sont allés jusqu'à dire, par exemple, que sa compréhension de la grammaire ne lui permettrait pas de comprendre les camps de la mort quand il a défendu, non pas Robert Faurisson lui-même, mais la liberté d'expression de Robert Faurisson. Ça fait vraiment partie des événements très contestés et contestables de sa biographie à Noam Chomsky. On a fait des liens, on est allé chercher dans sa théorie scientifique, ce qui pouvait expliquer ses prises de position.
Écoutez, je vais vous dire. Chomsky pense que la liberté d'agir, la liberté d'action, dont la liberté d'expression, n'est pas un problème scientifique, mais un mystère. Pour lui, c'est précisément, de ce point de vue, il se réclame de Descartes, nous ne pouvons pas fournir une analyse scientifique de notre sens de la liberté. Quand il a défendu la liberté d'expression, ça n'était absolument pas parce qu'il avait des théories linguistiques. Vous venez même de montrer en quoi il est totalement absurde d'essayer d'expliquer l'engagement de Chomsky à défendre la liberté d'expression d'opinion qu'il réprouve. Puisque la liberté en question est quelque chose qui, pour lui, est une limite à notre compréhension scientifique et à sa compréhension scientifique des langues. Donc, il est évident que essayer d'expliquer pourquoi Chomsky a décidé de s'engager dans un combat pour la liberté d'expression de quelqu'un qui niait l'existence des chambres à gaz par ses conceptions scientifiques, est simplement n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Pierre Jacob, un autre point important de la théorie du langage de Noam Chomsky, et qui conduit certains à faire encore ce pont entre le linguiste et le politiste, mais pont que lui ne fait pas et que vous ne faites pas, c'est qu'il y aurait une grammaire universelle à découvrir qui pourrait être le point de départ d'un langage et d'une vérité partagée.
Non, attendez. Revenons, donc nous avons abordé le problème de la complexité de l'organisation syntaxique des langues humaines, laissons ça de côté. Maintenant, le problème numéro 2 que Chomsky a essayé de clarifier ou d'élucider, de contribuer à élucider, c'est le mystère de l'acquisition par le bébé de sa connaissance de la langue. La grammaire universelle. Alors, si vous admettez que l'organisation hiérarchique des langues dont nous parlions, le fait qu'une phrase se décompose en groupe nominal, groupe verbal, et qu'il y a des rapports très complexes entre ces constituants syntaxiques que le bébé, ou d'ailleurs l'adulte, ne perçoit pas. Vous ne percevez pas ces syntagmes. Ce que vous percevez, c'est l'ordre linéaire entre les mots. Mais l'organisation hiérarchique que les linguistes représentent par des structures arborescentes, vous ne les percevez pas. Le bébé n'entend pas la structure hiérarchique en constituants syntaxiques des mots de sa langue qui sont prononcés par les adultes autour de lui. Donc la question, c'est comment découvre-t-il ses propriétés, étant donné qu'il acquiert la connaissance d'une langue qui exhibe cette structure hiérarchique. Comment fait-il le bébé? Eh bien, Chomsky donne le nom de grammaire universelle, simplement, à ce mécanisme tout à fait particulier d'apprentissage des langues, auquel il attribue L'organisation hiérarchique est un principe de la grammaire universelle qui permet au bébé d'acquérir sa langue. Comme le bébé ne peut pas extraire par sa perception sonore l'organisation hiérarchique des langues qu'il est en train d'apprendre, la conclusion de Chomsky, il appelle cet argument, de manière générale, l'argument par la pauvreté du stimulus. La pauvreté du stimulus, c'est qu'on ne peut pas extraire par l'audition les propriétés abstraites de l'organisation hiérarchique, du mouvement, qui est une autre propriété syntaxique des langues humaines. Le bébé ne peut pas les extraire de son environnement, contrairement à ce que les behavioristes auraient voulu dire, par le simple traitement sensoriel. Et donc, la conclusion de Chomsky, et c'est pour ça qu'il utilise cette expression de grammaire universelle, c'est qu'il pense qu'il doit exister un mécanisme transmis par l'évolution biologique, transmis génétiquement aux enfants par leurs parents et non pas transmis culturellement ou enseigné verbalement, puisque comment voulez-vous enseigner verbalement? Les parents ne connaissent pas l'organisation hiérarchique de la langue, ils peuvent en tout cas pas l'enseigner verbalement au bébé qui ne comprendrait rien. Donc ce que propose Chomsky par la grammaire universelle, c'est de nommer un mécanisme qui est présent et qui explique l'apprentissage et qui est hérité de l'évolution.
Voilà, c'est pour ça qu'il dit qu'il faudrait qu'on étudie l'acquisition des structures cognitives comme le langage, à peu près comme on étudierait un organe complexe, et de la même manière qu'on n'apprend pas par l'expérience à avoir des bras plutôt que des ailes, c'est pas par l'expérience non plus que crée le langage, mais qu'il est déterminé presque génétiquement. Pierre Jacob, ça veut donc dire que Noam Chomsky, il est faux de dire qu'il ne s'intéresse pas à la diversité des langues, comme on lui reproche.
Non, pas du tout. D'accord. Ce qu'il veut, c'est comprendre l'équilibre entre la diversité et les principes universels qui permettent à des bébés d'apprendre n'importe quelle langue quand ils sont immergés dans un contexte linguistique.
Alors, on arrive bientôt à la fin de cet entretien. Pierre Jacob, voilà. Donc, Noam Chomsky, un linguiste décisif, est-il pour autant dépassé? C'est-à-dire, c'était peut-être révolutionnaire il y a 50 ans. Depuis, il y a eu des avancées en psychologie, en neurologie. Les neurologistes disent que ce que dit Chomsky sur la langue, c'est en fait dans le cerveau. Est-ce que les générativistes qui faisaient la pluie et le beau temps dans les années 70 sont dépassés aujourd'hui?
Mais attendez, les générativistes ne faisaient pas la pluie et le beau temps dans les années 70.
Les linguistes parisiens qui voulaient entrer à Vincennes.
Non, mais écoutez, en France, la grammaire générative a eu un certain écho. En tout cas, il y a eu de formidables linguistes, très excellents. On n'en a pas parlé. Richard Kane, qui était un linguiste américain qui a enseigné à Vincennes, juste après, a été recruté par Nicolas Ruvet et Maurice Gross, a formé une ribambelle de linguistes européens, italiens, dont Luigi Rizzi, qui est professeur au Collège de France aujourd'hui. Il a été l'élève de Richie Kane. Et donc, Vincennes a été un pôle européen très important. Je ne peux pas vous expliquer sociologiquement pourquoi et comment Vincennes, dans les années 70, est devenu un rassemblement de linguistique générative.
Mais ils ont formé les Italiens, les Néerlandais, les Norvégiens.
Les Allemands, exactement. Mais dire que les générativistes faisaient la pluie et le beau temps, non, sûrement pas. Et dans le monde, il y avait des contestations. Il y a toujours eu des contestations. Mais imaginez, c'est le point de départ d'une certaine vision scientifique du langage qui peut être fausse. Évidemment, moi, dans 150 ans, je ne sais absolument pas à quoi ressemblera l'étude du langage. Mais dire qu'ils font et que Chomsky fait la pluie et le beau temps, c'est absurde. Il fait pas la pluie et le beau temps. Dans le domaine, disons, de la linguistique ou des études ou des sciences cognitives, la preuve, c'est qu'il y a des chercheurs en neurosciences qui contestent ces idées.
Et ce qui rend aussi la théorie de Noam Chomsky difficile à suivre, c'est qu'elle a changé plusieurs fois. C'est une pensée structuraliste, mais avec des variants ou des invariants qui varient plus que prévu.
Disons que, si vous voulez, c'est ça le problème de la démarche scientifique. C'est que vous le voyez bien avec la démarche scientifique dans le domaine de la médecine et de la biologie. Quand un virus apparaît, toutes les connaissances changent tout le temps. Donc, c'est vrai que Chomsky a changé les détails de son cadre, mais pas les questions fondamentales, je dirais.
Et dans un long entretien avec le journaliste Denis Robert, paru en 2001 chez Fayard, on recevra Denis Robert vendredi. Noam Chomsky écrivait ceci: « Si le monde pouvait être mis entre parenthèses, je serais parfaitement heureux de ne m'occuper que de linguistique. C'est beaucoup plus satisfaisant sur le plan intellectuel, beaucoup plus créatif. » Voilà, merci beaucoup Pierre Jacob. Je rappelle que vous êtes philosophe du langage et des sciences cognitives, directeur de recherche émérite au CNRS. Merci à l'équipe de France Bleu Vaucluse à Avignon de vous avoir reçu dans ses studios. Avoir raison avec Noam Chomsky. Cette émission est réalisée par June Loper. À la technique, c'était Anthony Thomasson ici à Paris, Christian Chazalon à Avignon. Et nous parlerons demain avec Henri Malheur, le fondateur d'Acrimed, de la fabrication du consentement.